allons.
Avec plaisir, j'espère.
Paris la Métisse, si vous avez une occasion de voir ce film, hein, bah, surveillez la nuit bleue et priez pour que les télés le projettent, le diffusent au moins un soir, parce que c'est vraiment un film qui donne une bonne idée de ce qu'est Paris aujourd'hui. Assez loin de Paris, je vous aime. Paris, je t'aime.
Oui, assez loin.
Assez loin.
Moins cher, plus différent. Oh,
soyons positifs, disons que c'est complémentaire.
Voilà, on peut dire ça comme ça.
Merci beaucoup d'être passé.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Double culture. Une émission de Tout Fric Hakem. Réalisée par Viviane Noël.
Avec la radio, surtout la nuit, on peut encore faire rêver.
Sur le SM, flash de glancé, où j'étais, je
culture, tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends.
Votre soirée sur France Culture. Surpris par la nuit, dans un instant, Winfried Georg Max Sebald, deuxième partie. On connaît Winfried Georg Sebald, l'écrivain allemand de renommée mondiale, mais Max Sebald n'apparaît dans aucune biographie de l'écrivain. Qui est cet homme qui a modifié son nom quand il a émigré en Angleterre vers la fin des années 60, surpris par la nuit, part sur ses traces. Minuit, du jour au lendemain, entretien avec Stella Baruch pour son livre « Naître en français » paru aux éditions Gallimard. Et dès 1h, les Nuits de France Culture vous propose de redécouvrir le vif du sujet, Rennes et l'affaire Dreyfus. 2h, atelier de création radiophonique, idée noire. 3h, terre à terre, plaidoyer pour l'arbre. Et à 3h55, si vous n'avez pas pu écouter hier, décibels, lorsque les auditeurs sont aussi des créateurs, suivi de Métropolitain, l'équerre et le compas numéro 57, autour, entre autres réalisations, du musée du Quai Branly, de Jean Nouvel, de l'école d'architecture de Lille, de Nasrine Serazi. Et tout de suite.
Voilà. Voilà la maison. C'est une belle maison, n'est-ce pas? Une belle maison du 19e siècle. Et là, si, alors, tu vois la grande porte d'entrée. À la droite, c'était son bureau. Les bureaux en bas. Disons, et devant cette grande fenêtre se trouvait la table où il travaillait. Et de ce côté, à gauche, en haut, c'était le deuxième bureau qu'il utilisait quand il voulait voir quelque chose, quand il avait des choses à faire, disons. Et tu vois, il y a un très grand jardin derrière cette mur-là. Et tu vois l'abri là? Il décrit toujours le moment où il a commencé à écrire. Il dit en anglais, I began to potter. J'ai commencé à bricoler. Même ma famille ignorait tout. Que voulez-vous faire? Je ne veux pas déranger madame. Bon, je regrette, mais il faut respecter ce qu'elle veut, n'est-ce pas? Bon, il est parti comme ça pour amener sa fille à Norwich. Bon, on va faire la route maintenant. Ouais. Passons par l'église et puis devant la droite de la salle.
J'ai entrepris ce voyage en Angleterre sur les traces de W.G. Sebald. Deux idées bataillaient dans ma tête. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à une phrase de l'auteur brésilien Bernardo Carvalho qui dit que la vie d'un écrivain n'est pas plus intéressante que celle d'un boucher. Et presque en même temps, j'avais la certitude intime que la vie de W.G. Sebald, dont chaque livre m'avait apporté un plaisir tellement inouï, ne pouvait pas me décevoir.
Surpris par... La nuit.
WG, Max Zebald. Jusqu'à ma 22e année, je ne m'étais jamais éloigné de la maison de plus de 5 ou 6 heures de train. Et lorsque, mû par diverses considérations, je me décidai à l'automne 1966 à aller vivre en Angleterre, je n'avais qu'une vague idée de ce qui m'attendait là-bas et de la manière dont, livré à moi-même, je réussirais à m'acclimater. C'est sans doute à mon inexpérience que je dois d'avoir surmonté sans trop d'appréhension l'épreuve des quelques 2 heures de vol de nuit entre Cloughton et Manchester. Il n'y avait à bord qu'un petit nombre de passagers enveloppés dans leurs manteaux, assis à bonne distance les uns des autres, dans la pénombre d'une carlingue où l'atmosphère, comme je crois m'en souvenir, était plutôt froide. Alors qu'aujourd'hui, serré la plupart du temps au milieu d'une foule de gens et exaspéré par les afféteries constantes du personnel, il n'est pas rare que je sois saisi d'une angoisse difficilement répressible. Cette traversée nocturne et monotone de l'espace aérien me procura à l'époque un sentiment de sécurité dont je mesure entre-temps l'illusion. Émerveillé, je vis par le hublot, après que nous eûmes survolé la France et la Manche plongés dans l'obscurité, étendant leur maillage depuis les districts les plus méridionaux de Londres jusqu'au centre de l'Angleterre, les milliers de lumières au sodium, dont l'éclat orangé fut le premier signe m'annonçant que désormais, j'allais vivre dans un autre monde.
Yes, I am.
Hello, Thomas.
Hello.
Hi, I'm Ralph. Hi. Hi, okay. Hi, nice to meet you.
Anyway, if you now, you know...
Je viens de me rendre compte que ça fait exactement 40 ans que Max est arrivé ici et tout ce qu'il décrit dans The Ausgewanderten, c'est bien sûr sur Manchester en plein déclin. Je ne sais pas si tu te souviens, une ville pratiquement post-apocalyptique.
En ruine.
En ruine, absolument, avec presque personne dans les rues. Une sorte de ville abandonnée. Et maintenant, 40 ans plus tard, quand tu regardes autour de toi, ce que tu vois, c'est Boomtown, une ville en pleine expansion. Depuis, disons, 5 ou 6 ans, 30 à 40 000 personnes sont venues s'installer au centre de Manchester. C'est sans précédent. Alors, toutes les ruines qu'il décrit, toutes les ruines industrielles que nous verrons un peu plus tard, sont à nouveau habitées maintenant. Ce bâtiment qui est très laid d'ailleurs, c'est l'hôtel Piccadilly que Max décrit dans son livre. On va longer le canal, descendre par la droite pour sortir progressivement de la ville. Là, tu pourras vraiment voir ce que Max a pu voir dans les années 60. Peut-être pas une vision aussi spectaculaire, mais au moins tu pourras te faire une petite idée.
Let's go down here.
Sur ta gauche, tu as un bâtiment en briques rouges. Il y avait sans doute des filatures de coton, des entrepôts, où le textile était entreposé avant d'être embarqué sur le canal, sans doute, vers Salford, où il y avait bien sûr tous les transatlantiques, les gros navires énormes que Max décrit et qui arrivaient en plein dans la ville.
Dans Les émigrants, il y a cette photographie du canal.
Yes, in the emigrants, yes, I think so, yes.
Sur cette photo, tu peux voir le canal vers lequel on se dirige. Tu peux même voir les cheminées des usines, qui n'existent plus, bien sûr, et aussi tous les anciens entrepôts et toutes ces maisons vides. Tout ce qu'on voit sur la photo est vide.
The bridge probably leading into the city.
Le pont
somewhere.
Devait mener quelque part dans la ville, mais tout est désert, sans vie.
And, you know, later on when
plus tard, je t'emmènerai dans des coins similaires.
We have to be very clear that
il faut bien se mettre en tête que Marx était quelqu'un comme tous les bons écrivains, je suppose, qui pouvait transformer cette ville dans son esprit pour en faire cet univers très sombre. Comme si elle se trouvait aux confins du monde, un monde où pratiquement plus personne n'habitait. Et quand j'y repense aujourd'hui, je crois que c'est exactement ce que Marx a ressenti quand il est arrivé de l'Allgäu, qui en fait, malgré tout ce qui s'était passé pendant la guerre, restait quand même un endroit assez idyllique. De venir ici, ça a dû être comme s'il était complètement coupé, éloigné de tout ce qu'il avait connu auparavant.
You know, I think it was what Marx describes in this book is also as if he experienced a big shock.
Je pense que ce que Marx décrit dans ses livres, c'est aussi l'expérience de ce choc énorme, le choc d'être confronté à cette civilisation détruite.
He's never seen anything like it.
Et on sait en fait que c'était la première fois qu'il voyait ça. Il est comme un écrivain en état de choc qui écrit sur tout ça. Et qui doit accepter ce qu'il a vu. Et c'est ça, tu vois, qui est fondamental avec Manchester.
Amos, Side et Hume, il y avait des rues entières où les fenêtres et les portes étaient condamnées. Des quartiers complètement rasés. Si bien qu'au-delà des friches ainsi créées, on pouvait apercevoir, éloigné encore d'un mile environ, la ville merveilleuse du siècle dernier, principalement composée de gigantesques immeubles victoriens, abritant bureaux ou entrepôts, toujours extraordinairement imposants d'aspect, mais en réalité presque totalement vidés de sa substance. Au cours de ses errances, durant les quelques heures de jour véritable, où la lumière d'hiver baignait les rues et les places désertes, j'étais toujours ébranlé par l'impudeur avec laquelle la ville couleur d'anthracite d'où était parti le programme d'industrialisation qui allait gagner le monde entier, exhibait aux yeux du promeneur les stigmates d'une déchéance et d'un appauvrissement chronique. Et l'effet d'irréalité était pour moi total. Quand, au crépuscule qui, au jour sombre de l'hiver, tombait dès 3 heures de l'après-midi, les étourneaux, oiseaux que jusque-là j'avais tenus pour des chanteurs et des migrateurs, s'abattaient par centaines de milliers en nuages noirs sur la ville. Et dans un vacarme à n'en plus finir, venaient en files serrées se poser pour la nuit sur les rebords des fenêtres et les saillies des maisons de commerce et des entrepôts.
That's him as I remember him. That's him the day that we met in late May. He was sitting in the corner exactly smoking a cigarette. The moustache looked like a sort of Viva Zapato type moustache. But he's always had a moustache since I've known him. But that is exactly how I remember him. Alors.
Oui, non, peut-être on va commencer par le commencement.
Oui.
Mais le commencement, c'est comment tu as rencontré Marx?
Oui, j'ai fait sa connaissance en mai 1970. On avait tous les deux une interview à la faculté. Et je suis arrivé là, à la faculté. Il y avait un bâtiment assez vieux là. Et je suis entré, et là, dans le coin, il se trouvait un jeune homme qui fumait. Il fumait sans cesse. Il m'avait salué une fois, je crois. On a échangé peut-être des mots, je sais pas, hello, how are you? Mais on ne s'est pas même dit les noms et tout ça. Bon. On avait choisi Max pour une situation où il a dû enseigner l'allemand comme langue, mais aussi de la littérature allemande. Et moi, ils m'ont choisi alors pour enseigner l'allemand comme langue étrangère, c'est ça. Il m'avait raconté qu'il travaillait comme, comment on dit, lecteur, n'est-ce pas?
Lecteur, oui.
À Manchester, et qu'il cherchait une situation permanente en Angleterre. L'université a été fondée alors dans les années 60, je crois 66, alors voilà, 4 ans après la fondation, nous sommes arrivés là.
Parmi les premiers professeurs.
Oui, les jeunes professeurs. Alors tout le monde était jeune là. Alors on arrivait là, alors il s'agissait d'une université tout à fait nouvelle.
Le slogan de l'université, c'était
« Do different ». Oui, et oui. Oui, vraiment, on se sentait très bien là, il faut l'admettre. Et c'était vraiment au cours de l'année suivante, disons, quand j'ai fait sa connaissance, qu'on a pu constater qu'il s'agit d'un jeune homme extraordinaire, avec du talent, tout ça. Une fois, il m'a raconté alors l'histoire de ce roman qu'il avait écrit alors à Manchester.
Ah, il avait écrit un roman?
Oui, il avait écrit un roman à Manchester, mais il ne voulait pas en parler.
Et disons, c'est un roman qui n'a pas été publié?
Non, jamais, non, non.
Et il parlait de quoi dans ce roman?
C'était plutôt alors l'histoire d'un jeune homme amoureux. Mais quand on lit ce roman, on ne pense pas que c'est Max qui l'a écrit. D'après le style et tout ça. Ce n'est pas alors le style qu'on connaît maintenant.
Il ne faut pas perdre de vue que tous ceux qui parlent de Max le font en se basant sur une connaissance qui n'est que très superficielle en fin de compte. Et bien sûr, la personne qui connaîtrait le mieux Max est peut-être différemment, c'est Ute. Mais il n'est pas surprenant qu'elle ne veuille pas s'exprimer parce que, en tant que personne privée, il y aurait d'autres enjeux et d'autres problèmes. C'est tellement évident que cela ne devrait avoir aucun intérêt pour nous parce que Ute n'a pas d'intérêt à parler de ça. Max n'avait pas d'intérêt à parler de ça, et comme il y a des traces de tout ça dans ses livres, celui qui lit attentivement saura de toute façon quels étaient les problèmes du moment. Je crois que tout ça fait partie du processus de transformation qui, en partant des expériences du quotidien, qui sont simplement douloureuses pour tout un chacun, les transforme en une littérature à laquelle les gens peuvent s'identifier. C'est sûr, il avait ce qu'on peut appeler un côté sombre qui ressortait dans son écriture, mais quand tu étais avec lui, quand tu parlais avec lui, c'était un tout autre aspect de sa personnalité qui ressortait. Parfois, c'était très étonnant quand il te racontait les histoires qui allaient devenir de la littérature, parce que ces histoires étaient souvent très drôles.
Tu te rappelles une histoire en particulier qui t'a raconté et que tu as retrouvée dans un livre?
Eh bien, ce que je me rappelle, par exemple, c'est l'histoire Selwyn. Je me souviens surtout qu'il ne parlait pas forcément du personnage de Selwyn, mais plutôt qu'il m'a raconté que, par exemple, Ute et lui cherchaient une maison dans le Norfolk, et toute l'histoire était beaucoup plus romantique, bien plus ouverte et optimiste, parce que c'était les débuts de leur vie dans le Norfolk. Il mentionnait peut-être Selwyn, mais c'était seulement passant. Bien sûr, quand le personnage principal a été introduit dans l'histoire, ce qui était une histoire charmante et très touchante, c'est devenu tout à fait autre chose.
Nous contemplâmes longtemps ce décor qui, par la disposition de ses étagements, attirait le regard vers le lointain. Et nous nous crûmes seuls, jusqu'au moment où, dans la pénombre dispensée par un grand cèdre, à l'angle sud-ouest du jardin, nous avisâmes, allongés sur le gazon, une silhouette immobile. C'était un vieil homme qui soutenait sa tête sur son avant-bras replié et semblait abîmé dans le spectacle du petit carré de terre qu'il avait juste devant lui. Nous traversâmes en diagonale la pelouse où nos pas s'enfonçaient avec une élasticité délicieuse et allâmes à sa rencontre. Mais ce n'est que lorsque nous fûmes près de lui qu'il s'aperçut de notre présence et se redressa quelque peu confus. Quoique de grande taille et large d'épaule, il donnait l'impression de quelqu'un de râblé et même, eût-on cru, de plutôt petit. Peut-être était-ce parce qu'il portait toujours, comme nous devions bientôt le remarquer, des lunettes de lecture à monture dorée, avec des verres en demi-lune, par-dessus lesquels il regardait en baissant la tête, de sorte que cette attitude penchée, presque implorante, lui était sans doute devenue une seconde nature. Ses cheveux blancs étaient peignés en arrière, mais des mèches folles retombaient sans cesse sur un front étonnamment haut. « I was counting the blades of grass », dit-il pour excuser sa distraction. « It's a sort of pastime of mine, rather irritating. » I am afraid. Il écarta une de ses mèches blanches. Ses gestes étaient malhabiles et à la fois parfaits, de même que relevait d'une politesse surannée la manière dont il se présenta à nous comme étant le docteur Henry Selwyn. Nous étions certainement venus, ajouta-t-il, pour l'appartement. Pour autant qu'il le sût, il n'était pas encore loué, mais nous allions devoir en tout état de cause patienter jusqu'au retour de Miss Selwyn, car c'était elle qui était la propriétaire de la maison. Lui n'étant qu'un habitant du jardin, a kind of ornamental hermit.
Quand on lit, alors dans les journaux, je ne sais pas dans les articles, qu'il s'agissait d'une personne très sérieuse, on ne reconnaît pas toujours Max, alors, parce qu'il aimait, beaucoup rire, hein. Et quand il giggle, alors ça veut dire, alors là, je ne sais plus, alors ce n'est pas rire, c'est plutôt, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, mais on pourrait bien dire qu'il s'agissait d'une espèce de rire dans sa voix quand il parlait, c'est ça que je voulais dire. C'est ce qu'on dit en anglais. He had a laugh in his, voice.
Je me souviens que la première fois que on s'était, je crois que je t'avais écrit une lettre où je t'avais parlé de mon désir de faire une émission sur cette personnalité.
Oui.
J'avais utilisé le terme elusive personality.
Oui.
Tu te souviens? Voulant dire personnalité un peu secrète. C'est vrai que j'étais parti.
Oui, mais j'ai jamais pu comprendre cette description elusive.
Mais en fait, ça vient de, je pense, beaucoup de du narrateur.
Oui, c'est ça. Un narrateur qu'on ne voit pas très clairement, c'est ça, n'est-ce pas?
Oui, qu'on ne voit pas très clairement et qui est très émotionnellement affecté par des choses très étranges, par un.
Et peut-être par ce qu'il a dit, alors qu'il ne faut pas confondre le narrateur et lui, Max. Hein, il a dit ça aussi. Hein?
Et tu sais comment justement il a créé ce narrateur?
Ça a commencé avec Nach der Natur. Il avait toujours décrit ce qu'il faisait alors comme scribbling.
Ouais,
my scribblings, je crois t'avoir déjà raconté alors, my scribblings.
C'est gribouillage, c'est ça?
C'est quelque chose comme ça, auf Deutsch, kritzeln. Mm-hmm. C'était pas parce qu'il faisait comme ça, il faisait toujours, alors, il n'utilisait jamais, alors, non, alors. Et un jour, il m'a téléphoné, I just done some scribbling, ich hab so eben gekritzelt. Möchtest du das hören? Est-ce que tu veux bien que je te lise ça? Alors, il est passé et il nous a lu les premiers deux chapitres. Alors du poème, c'était pour nous un grand plaisir, mais un peu choquant aussi, parce qu'on ignorait qu'il faisait ça. Mais c'était pour nous intéressant parce que c'était, je crois, l'œuvre la plus récente qu'on avait publiée en Angleterre après sa mort. Mmh. Mais il avait commencé
par ça.
Son écriture avec le poème Nacht der Natur.
I guess the irony that,
Max disait toujours que l'ironie de la chose, c'est que quand il a commencé à écrire, il trouvait que la vie à l'université devenait de plus en plus difficile, de plus en plus étroite, frustrante, de plus en plus mécanisée, de plus en plus éloignée de la littérature, de plus en plus utilitaire. Et Max avait tout ça en horreur. Pour lui, c'était important d'y échapper. C'est pour ça qu'il a commencé à écrire. Il disait qu'il en avait besoin, qu'il avait besoin de s'échapper de la vie universitaire et peut-être aussi de problèmes personnels. Puis l'écriture, c'est ce qu'il a fini par réaliser bien plus tard et devenu ce qu'il appelait toujours une deuxième prison. Il avait essayé d'échapper à la première, c'est-à-dire à sa carrière universitaire, mais il s'est rendu compte qu'il s'était créé toute une nouvelle industrie, avec encore une fois toutes les contraintes, toutes les pressions, et tout ce qu'on exigeait de lui en termes de temps et tout ça.
August 1992, when the dog days were drawing to an end, I set off to walk the county of Suffolk, in the hope of dispelling the emptiness that takes hold of me whenever I have completed a long stint of work.
The opening lines of Max Sebald's prose work, The Rings of Saturn. On the surface, it's the record of a two-week walk along the east coast of England. But Sebald, a German academic who's lived here for almost 30 years, also uses his locations to explore England's imperial past and its slow decline.
Well, one has a sense, I think, that the decline which has affected this country is a very long drawn out and also quite inexorable process. One does get that sense of a long, very gradual decline, nothing cataclysmic, but in phases, one after the other. A once great nation-state and empire are being ground to bits.
Max is basically a displaced person.
Max est en fait une personne déplacée, quelqu'un qui n'a plus de chez lui, comme Nabokov n'avait plus de chez lui. Et je ne suis pas sûr que Max aurait apprécié la comparaison, mais Max n'avait plus de chez lui, peut-être pour des raisons plus subtiles que quelqu'un qui a été expulsé de son pays comme Nabokov et sa famille.
But Max lost his home.
Max n'avait plus de chez lui. Et je dirais que cela fait vraiment partie de son héritage littéraire et de l'héritage allemand. Parce que la destruction qui avait eu lieu auparavant a eu un tel impact que cet Allgäu idyllique est devenu intenable en tant que véritable lieu où l'on peut vivre et continuer à croire que c'est aussi beau que ça en a l'air. Ce qui fait qu'on pouvait aussi bien partir et vivre n'importe où. Et c'est ce qui s'est passé et que l'on retrouve dans toute l'écriture de Max.
Deux heures environ après m'être miraculeusement libéré du labyrinthe de la lande, j'atteignis enfin la localité de Middleton, où je voulais rendre visite à l'écrivain Michael Hamburger,
qui vivait là depuis près de 20 ans. Il était environ 4 heures. Il n'y avait personne dans la rue du village, pas plus d'ailleurs que dans les jardins. Les maisons avaient un air inhospitalier, et je me fis l'effet avec mon chapeau à la main et mon sac à dos, d'un cheminot des temps anciens, me sentant si peu à ma place, que je n'aurais pas été étonné le moins du monde si j'avais soudain été pris en chasse par un essaim de garnement, ou si le propriétaire de l'une ou de l'autre des maisons de Middleton avait surgi sur le pas de sa porte pour me lancer un tâche de déguerpir, et plus vite que ça. C'est qu'aujourd'hui encore, et à y regarder de près aujourd'hui surtout, quiconque voyage à pied, à moins de correspondre à l'image coutumière de l'estivant randonneur, suscite immédiatement la méfiance des habitants de la localité où il vient de passer. C'est sans doute pour cette raison que la jeune fille aux yeux bleus, à l'épicerie du village, me dévisagea d'un air si consterné. Le grelot de la porte avait depuis longtemps cessé de tinter, et je me tenais depuis un moment dans la boutique pleine de boîtes de conserve et d'autres marchandises non périssables, lorsqu'elle sortit de la pièce voisine, éclairée par la lumière tremblotante d'une télé, et se borna à me regarder bouche bée, comme si elle était confrontée à une créature venue d'une autre planète. J'ai remarqué plus d'une fois que l'effroi paralyse les gens de la campagne à la seule vue d'un étranger, et qu'ils ne le comprennent le plus souvent qu'à grand-peine, parfois pas du tout, même s'ils maîtrisent parfaitement leur langue. C'est ainsi que j'ai eu beau lui répéter que je désirais de l'eau minérale, la jeune fille de l'épicerie de Middleton n'a fait que secouer la tête pour me signifier qu'elle ne me comprenait pas, et m'a finalement vendu une dose de cherry coke glacée que j'ai vidée d'un trait, comme une coupe d'amertume, adossée au mur du cimetière avant de rejoindre la maison de Michael, située à quelques centaines de mètres de là.
Hello, Anne.
Hello.
How are you?
I'm all right, thank you. Come in, I don't know where Michael is now. He went to find you in the garden. Mind your head. I'll go and find him. You better come in his room, I think. Wait a minute.
Oh, hello. Hello.
Hello.
I was doing some gardening.
Would you like some tea or coffee?
I'm sorry, I'm extremely deaf.
Yes,
you have to speak loudly.
Coffee.
Yes. On peut
right.
même parler français, si vous voulez. Mais mon français est un peu vieux. Alors, c'est oublié. Ça, c'était le premier livre de Sebald, Nacht et Nature. C'est ce poème que j'ai traduit. Et pour moi, Sebald était poète. Et s'il écrivait en vers ou en prose, ça ne faisait rien. Il était poète. Par essence. parce que on dit qu'il était romancier, mais il n'était pas romancier. Il était un poète en prose. ce n'est pas la même chose. I put out here the things. Here is my poem. Now, this poem, it does not mention Sebald at all. And in fact, it's a poem partly just about death and the death of friends.
When did you write the poem?
I wrote it shortly after his death. I can't remember exactly when. Redundant epitaphs for friends not named. Night now, returned from Egypt, Thrace, Mexico, Scythia, Tibet, wherever by tenants of stellar space-time, Tombs were the things of day, were furnished for the dark. Night crops were eaten, night sculptures carved by those who deferred to darkness, like swallows home to it diving, built the best homes, the surest, to distract the vicarious few from the leisure not long but limitless.
Michael avait 9 ans et demi lorsqu'en novembre 1933, il arriva en Angleterre en même temps que ses frères et sœurs, sa mère et les parents de cette dernière. Dans les récits autobiographiques tardifs de Michael, nous apprenons comment les craintes et les angoisses de la famille, voyageant vers l'inconnu sans le père, atteignirent leur point culminant au contrôle douanier de Douvres, lorsqu'il lui fallut assister, impuissante et muette, à la confiscation des 2 perruches ondulées du grand-papa, qui n'avait absolument pas souffert du transport et se portait à merveille. La perte de ces oiseaux familiers, le fait de les avoir vus disparaître à jamais derrière une sorte de paravent, nous aura permis d'entrevoir mieux que le reste, écrit Michael, quel genre de choses monstrueuses on était amené à vivre lorsqu'on partait pour un autre pays, dans les circonstances données. Quand vous avez découvert ce livre-là, et que vous avez vu qu'il parlait de vous,
oui, oui.
Ça a duré.
Oui, oui. Il a même, il nous a montré ce texte avant la publication parce qu'il il a pris quelques libertés. He was never totally factual. His imagination always came into any account, and he wanted to know whether I had any objection to the things that were not quite true, but I didn't mind.
Hello, again.
Again. Well, the dream.
Le rêve qu'il a mis, mon rêve, je lui ai raconté quand j'ai fait sa connaissance, car il m'a tout de suite été sympathique. Nous parlions beaucoup tous les deux. Et il ne m'a pas dit qu'il allait l'utiliser avant que le livre soit sorti. Et un jour, il m'a donné un exemplaire et il m'a dit, j'espère que ça ne vous dérange pas, mais une grande partie de ce chapitre, par exemple, l'entrepreneur du pont de Fenèbre, se perd dans la lande, tout ça, c'est moi qui lui ai raconté. Ça ne me dérangeait pas, mais bon, je me suis dit, ça y est, je ne pourrais plus me servir de ce rêve. Désolé, vous devez couper.
Lorsqu'elle revint, après avoir téléphoné, elle me dit qu'au moment de raccrocher, elle s'était souvenue du rêve qu'elle avait fait peu avant de se réveiller de sa sieste. Elle se trouvait à Norwich avec Michael, et j'avais commandé un taxi qui devait la reconduire chez elle, parce que Michael était retenu en ville plus longtemps que prévu. Quand le taxi, une grande limousine scintillante, était arrivée, j'avais tenu ouverte la porte arrière pendant qu'elle s'installait au fond. Sans un bruit, la limousine s'était mise en mouvement, et Anna n'avait pas eu le temps de s'adosser, que l'on était déjà loin de la ville. Plongée dans une forêt, incroyablement profonde, et traversée de raies de lumière étincelante, qui s'étendaient jusque devant la maison du Middleton. On avançait à une allure dont on ne pouvait pas dire si elle était rapide ou lente. Non point sur une route, mais plutôt sur une voie merveilleusement moelleuse. De loin en loin légèrement incurvée. L'atmosphère à travers laquelle la voiture se déplaçait était plus dense que l'air et avait presque quelque chose d'un lent cours d'eau. « J'ai vu la forêt défiler dehors, » dit-elle. « Des détails infimes, impossibles à rendre, me sont apparus en pleine clarté. Les fleurs minuscules sur les coussins de mousse, les brins d'herbe les plus fins, les fougères tremblantes et les troncs gris ou bruns, lisses ou rugueux, se dressant à la verticale, disparaissant à quelques mètres de hauteur dans le feuillage impénétrable des buissons, poussant entre les arbres. « Mais l'incroyable beauté de tout cela, » dit Anna, « je n'en ai plus maintenant qu'une idée vague. Et de même, je ne pourrais plus décrire précisément la sensation que me procurait le fait de rouler à bord de la limousine. Sans chauffeur, à ce qu'il semblait. En fait, je n'avais pas l'impression de rouler, mais plutôt de planer, comme cela ne m'était plus arrivé depuis l'enfance. Lorsque je pouvais effectivement me mouvoir à quelques pouces au-dessus du sol.
Il a été élu membre du cercle des écrivains bavarois. Bayerische Dichterverband oder sowas ähnliches. Et il recevait tous les trois mois des annonces de la part de ce cercle-là. Et toujours, il s'agissait des annonces de la mort de quelqu'un. Il a ouvert la lettre et il a crié toujours à Outa qui se trouvait dans la cuisine, encore un. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? 4 mois après sa mort, Outa reçoit une annonce. Nous regrettons vivement de vous informer de la mort de Wegesebald. Alors, on s'imaginait qu'il aurait trouvé ça tellement drôle. Hein? Elle avait pensé tout de suite, elle a entendu crier sa voix, encore un. Mais c'était plutôt le moment où ça avait lien, parce que la lettre était adressée à Max. C'était pour lui annoncer sa mort. Mais c'est pour moi typiquement anglais. Hein? Et ce qu'il faut savoir, tout d'abord, c'est que Max, il adorait les cimetières. Il appréciait les silences, il appréciait le paysage autour de l'église et tout ça. De temps en temps, il a cherché un endroit dans un cimetière pour lire. Bon, alors on passe par ici, encore des pierres tombales très très vieilles. Et là, on voit un banc, tout en face de ce qu'on cherche. Et voilà. Et tu vois? La pierre tomba tout à fait différente. Et tu vois aussi ces pierres-là. Tu connais cette tradition?
Oui, c'est la tradition juive. Hein.
C'est la tradition juive.
De mettre des cailloux.
Pour ceux qui rendent visite à la tombe, ils mettent ça. Longtemps, il y avait des messages. Il y a des gens qui... Alors, il faut l'admettre, la tombe est devenue une sorte de pèlerinage pour les gens. Et il y avait pas mal d'occasions où les gens ont laissé des messages.
Du genre, qu'est-ce qu'ils disent?
Alors, j'ai toujours apprécié votre littérature, hein, votre façon d'écrire. Hein, vous allez nous manquer. Je ne vais jamais oublier les cours que tu as donnés à la faculté et tout ça. Alors, mais je ne vois plus de messages aujourd'hui.
Thank you.
W.G. Max Sebald. Il s'appelait Winfried Georg Sebald. Mais il n'aimait pas le nom Winfried. Ça rappelait alors le temps des nazis et tout ça. Il détestait vraiment ce nom. Il y avait seulement sa mère qui l'appelait Winfried. C'est un endroit très beau. Il y a peut-être des gens qui disent oh, c'est macabre, mais quand on parle de Max, quand on parle de alors la mort et tout ça, cimetière, c'était naturel. Et je voudrais te raconter un moment sébaldien au moment de l'inhumation ici. Tout le monde, il y avait peut-être 20 personnes ici. On était vraiment très tristes, bien sûr. Mais au moment de l'inhumation, il est descendu un rouge-gorge perché là-dessus. Et tout le monde a dû rire et dit « Max !» C'était alors un moment inoubliable.
Un rouge-gorge perché sur le cercueil,
c'est ça.
Pendant qu'on le descendait.
Oui. Et il y avait Beryl qui criait « It's Max !» Et tout le monde a dû rire. Mai 1944. Tu te rappelles, c'est une date dont il fait mention dans le livre Austerlitz. Tu as vu ça? Et voilà. Et c'est marqué quoi? Tu peux peut-être lire en français?
Incroyable.
Tu n'avais jamais...
Non, j'ai pas fait le rapport. Donc c'est l'histoire en fait de...
Des prisonniers enfermés.
Oui, des prisonniers enfermés.
Nous sommes 900 Français.
Écrit Jacobson, qui a relevé ce graffiti sur la paroi de chaux blanche du bunker. D'autres gravaient juste une date ou un lieu avec leur nom. Lob Marcel de Saint-Nazaire, Wexler Adam de Limoges, Max Stern, Paris, 18 mai 1944. Date de naissance de W.G. Sebald. Elle est aussi celle de l'arrivée au 9e fort de Kaunas, du convoi 73, avec lequel 878 juifs de toute nationalité ont été déportés à partir de Drancy. Parce que Max Stern, c'est ses initiales aussi.
Oui, c'est ça. Merci.
Du 7 septembre au 31 octobre, les bombardements allemands se succèdent. C'est ce que les Anglais appellent le Blitz. Toute l'Angleterre supporte l'épreuve avec courage. Les pilotes de la Royal Air Force font des prodiges, abattent sans cesse plus d'Allemands. De Douvres, un journaliste décrit au micro un combat aérien.
one coming down in flames. There's somebody's hit the German, and he's coming down. There's a long streak. He's coming down completely out of control. A long streak of smoke. The man's bailed out by parachute. The pilot's bailed out by parachute. He's a Junkers 87, and he's going slap into the sea, and there he goes. Smash!
One ambulance, one car to 114 High Street, sector 220.
One ambulance, one car, 114 High Street, don't forget your nose.
La province n'est pas épargnée. Dans un abri de Manchester, on chante pour chasser l'angoisse.
And a lady next to us was giving her apples, and she said, be quiet and you will be all right. She said, get down there and mind the splinters.
When I arrived here for the first time, this was in 1989.
Je suis arrivée ici pour la première fois en 1989, l'année où le Centre britannique de traduction littéraire a été fondé. J'avais un appartement sur le campus, mais tous ces bâtiments que tu vois aujourd'hui n'existaient pas encore. Ils n'ont été construits que ces dernières années. C'était un campus bien moins important à l'époque, mais je suppose que l'université est en pleine expansion. Bien que j'ai appris que les facultés de langue sont en train de fermer, presque toutes les facultés de langue, oui. Alors, je ne sais pas trop, mais je suppose que les départements d'économie et d'informatique sont florissants. Tout a l'air fermé, parce que les cours n'ont pas encore commencé. Voici le bâtiment où Max avait son bureau.
Where Max had his office. Oh well.
Ah,
it's closed.
Il est fermé. Parce qu'on est samedi. Je vais lire cette lettre de Max qui est assez drôle. Ici, il y a plus de haut que de bas. Et la phrase suivante. Le déclin de l'université de l'East Anglia paraît inexorable. C'est très drôle. La faculté de langues vivantes est à présent pratiquement non existante. Et moi, en punition de mes péchés, on m'a envoyé en IAS, c'est-à-dire les études américaines. Sinon, je continue à tourner ma meule. Et j'espère arriver au point culminant de ce travail qui m'occupe depuis maintenant 2 ans, à la fin de l'été. Si je suis réincarné, ce sera en taupe, je crois. Là, c'était sur Austerlitz qu'il travaillait, qui est paru à peu près 6 mois plus tard, probablement. Et ça, c'est un petit mot gentil. J'espère que tu vas bien et que tu restes inchangé. Allons voir le banc. Oh, on ne va pas dans la bonne direction. Je faut aller par là, je suis désolée.
C'est un vrai labyrinthe de toute façon.
On traverse le campus maintenant. Tu peux admirer ce site superbe. Le lac.
Oh,
regarde, il n'est plus là. Le banc. Rapproche-toi. Il devrait être là-bas. On l'a enlevé. Tu vois là où il y a cette forme parfaitement ronde.
Et qu'est-ce qui était écrit sur le banc, tu te souviens?
Oui, c'est une citation d'un de ses livres, celui avec des illustrations de Jan Peter Tripp.
It was unerzählt. Unerzählt bleibt die Geschichte der abgewendeten Gesichter. Unrecounted.
Des histoires de visages abgewendeten.
Abgewendet.
Faces qui se sont détournés, que vous ne pouvez pas regarder en face, resteront à jamais irracontés. Il voulait dire qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas la capacité de raconter leur histoire, dont vous n'entendrez jamais l'histoire. Et c'est l'un des thèmes de ces livres, bien sûr. Il déterre tant de choses du passé qui ont disparu et les fait revivre de cette façon.
Tu
vois les pyramides?
Les bâtiments en forme de pyramide.
Oui, on dirait des petites ruches. Quand on lit ces livres, on atteint une espèce de transe. On ne sait pas où il était quand il a écrit ça. La narration se fond en quelque sorte, d'une époque à une autre, et d'un personnage du passé dans un autre. Par exemple, tout d'un coup, il est assis dans une bibliothèque de Southbold. Il parle à quelqu'un, peut-être à un vieux marin, ou quelqu'un tout en pensant à Sir Thomas Brown à Amsterdam, en train de regarder Rembrandt ou le docteur Tulpe en train de faire une dissection dans le célèbre tableau de Rembrandt. C'est pourquoi ces livres ressemblent un peu à des rêves. Par exemple, en ne voyant pas le banc tout à l'heure, j'ai pensé à ça, tu vois, que c'est comme dans ces livres. Le monde n'est pas ce qu'il paraît dans ces livres. Et on se met à penser et à ressentir sur un plan complètement différent quand on le lit. Si on a le temps ou le privilège de pouvoir s'asseoir et lire un livre de lui, de la première à la dernière page d'un seul coup, on se met à flotter, dans les airs.
It's amazing how that works.
Bis in mein 22. Lebensjahr war ich nie weiter als 5 oder 6 Zugstunden von zu Hause weg gewesen. Und deshalb hatte ich, als ich mich aus verschiedenen Erwägungen heraus im Herbst 1966 entschloss, nach England überzusiedeln, kaum eine zulängliche Vorstellung davon, wie es dort aussehen und wie ich, ganz nur auf mich gestellt, in der Fremde zurechtkommen würde. Meiner Unerfahrenheit vielleicht war es zu verdanken, dass ich ohne größere Besorgnis den etwa 2-stündigen Nachtflug von Kloten nach Manchester überstand. Es befanden sich nur wenige Passagiere an Bord, die in ihre Mäntel gehüllt, weit voneinander entfernt, in dem halbdunklen und, wie ich mich zu erinnern glaube, ziemlich kalten Gehäuse saßen. Überkommt mich heute, wo man zumeist mit einer Vielzahl von Menschen auf das Entsetzlichste zusammengezwängt und von der beständigen Betulichkeit des Personals aus der Fassung gebracht wird, nicht selten eine kaum mehr einzudämmende Flugangst, so erfüllte mich damals das gleichmäßige Durchqueren des nächtlichen Luftraums mit einem, wie ich inzwischen weiß, falschen Gefühl der Zuversicht. Voller Verwunderung schaute ich, nachdem wir das in der Finsternis versunkene Frankreich und den Ärmelkanal überquert hatten, hinunter auf das von den südlichsten Bezirken Londons bis weit ins englische Mittelland hinein sich erstreckende Lichternetz, dessen orangefarbener Sodiumglanz mir ein erstes Anzeichen dafür war, dass ich von nun an in einer anderen Welt leben würde.
Chablis,
Bon, allez, oui.
Eh bien. Asseyez-vous.
Oh, j'ai trouvé les livres de Max Sebald. Ou bien les livres que j'ai traduits sous ce sont ces trois.
Ah oui.
Austerlitz.
En allemand,
c'était Luftkrieg und Literatur, mais on a donné un autre titre en anglais, les Camposanto. Parce qu'il avait vécu en Angleterre pendant 30 années, je crois, il aurait pu très bien écrire en anglais lui-même, mais il préférait écrire dans sa langue maternelle, et ça je le comprends bien. Il écrivait dans un style presque du 19e siècle en allemand. Mais c'est aujourd'hui l'allemand emploie des phrases courtes. Mais Max avait, il y a dans Austerlitz une phrase pendant 9 pages. C'est beaucoup. Je ne l'ai pas. Je l'ai conservé jusqu'à ce moment. Une longue, longue phrase. Mais on a dit que peut-être Max a adopté ce style parce qu'il n'habitait plus l'Allemagne. Mais je crois que non, il l'aimait tout court.
Et quand vous traduisez le texte, est-ce qu'il y a déjà les images ou les images apparaissent?
Non, mais il avait choisi ces images.
Oui. Mais vous avez le texte sans images.
Oui, oui. Il m'en faut faire les pages aussi longues en anglais qu'en allemand.
Ah oui.
Pour ces images qui étaient pour lui très importantes, oui. Ne sont pas illustrations, pour ainsi dire. Plutôt des méditations, des commentaires.
Des commentaires.
Oui, des commentaires, oui, oui. Et il ne disait pas où il les avait trouvés. Cela m'intéresse beaucoup, cette image sur Austerlitz.
Vous pouvez la décrire un petit peu ou...
C'est un petit garçon en costume de fête, en anglais fancy dress. Un garçon de peut-être 8 ans. Il se tient debout dans un pays très vague, un peu sinistre, n'est-ce pas? Et ça, c'est comme Max a pensé, je le sais. On suppose dans le livre que le petit Austerlitz allait avec sa mère. Elle était en grande tenue comme une fée ou une princesse. Oui, en Austerlitz, il y a ces passages où, comme garçon, Austerlitz passe des vacances avec son ami en Wales, au Pays de Galles, oui. Et toujours, il y a quelque chose d'étrange de ce qu'il décrit sur le Pays des Galles. On ne peut pas les nommer des fées, mais il avait toujours une façon de suggérer qu'il y avait des êtres étranges qui se mêlaient dans la vie quotidienne. Et ça, je le crois, c'est très Max, oui. Si vous regardez dans Austerlitz, vous en trouverez beaucoup. C'est difficile de choisir, très difficile. Les petits géants, ce ne sont pas exactement des fées, mais pas très loin. If you had an eye for them, they would be seen quite often, said Evan. At first glance, they seemed to be normal people. But when you looked more closely, their faces would blur or flicker slightly at the edges. And they were usually a little shorter than they had been in life. For the experience of death, said Evan, diminishes us just as a piece of linen shrinks when you first watch it. The dead almost always walked alone, but they did sometimes go around in small troops. They had been seen wearing brightly coloured uniforms or wrapped in grey cloaks, marching up the hill above the town to the soft beat of a drum, and only a little taller than the walls round the fields through which they went. C'est élégiaque, folklorique aussi.
Oui, puis j'ai l'impression que vous avez vraiment... Je vais relire le français quand je vais rentrer,
oui.
Pour voir, parce que...
Oui, cela se fait.
J'ai même envie de le regarder maintenant, je peux regarder?
Oui, oui. Pourquoi pas?
Vous avez commencé où?
If you had an eye for
them. Pour celui qui avait un œil pour eux, disait Evan, il n'était pas rare de constater leur présence. À première vue, ils ressemblaient aux gens normaux, mais quand on les regardait de plus près, les visages s'estompaient ou leurs contours tremblaient légèrement. La plupart du temps aussi, ils faisaient un empan de moins que de leur vivant, car l'expérience de la mort, affirmait Evan, nous fait rétrécir, exactement comme une pièce de tissu qu'on lave pour la première fois.
J'avais de la chance que Max était là pour répondre aux questions pendant la traduction Austerlitz. Mais quand je traduisais Camposanto, je me disais toujours qu'est-ce que Max aurait dit ici, qu'est-ce qu'il aurait voulu. On dirait en anglais que je sais de second guess. Comment dit-on ça en français? On essaie de second guess quelqu'un.
Qui devine.
Qui devine ce qu'il aurait dit, ce qu'il aurait voulu, ce qu'il aurait pensé.
Ah
voilà la côte ici. Alors si tu descends la côte, alors Max, il est parti,
oui.
Par là, n'est-ce pas, il s'est promené alors le long des galets ici, et ces falaises, et voilà la mer. Elle est grise, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme la mer Méditerranée.
C'est ce qu'il appelait l'océan allemand.
C'est ça. Parce que c'était marqué alors dans les atlas, n'est-ce pas? Oui, German Ocean. Oui, voilà. Oui, je ne sais pas depuis quand ça s'appelle le North Sea alors. Et ces falaises-là, c'est de ce côté que la vie est tombée, pour ainsi dire, dans la mer, n'est-ce pas?
La ville de
Dunwich. La ville de Dunwich, oui. Quelle histoire, hein? Et on dit alors que maintenant, s'il faut par mauvais temps, on peut entendre le clocher de l'église sonner sous la mer. On dit ça alors, mais surtout la nuit.
J'avais marché, me semblait-il, durant des heures, avant de voir se dessiner peu à peu, en couleur pâle, quelques toits d'ardoises et de tuiles, et une colline boisée. L'actuel Dunwich n'est que l'ultime reste d'une ville qui comptait au Moyen-Âge parmi les ports les plus importants d'Europe. Il y avait autrefois ici plus de 50 églises, monastères et hôpitaux, des docks et des fortifications, une flotte de pêche et de commerce comptant 80 bateaux, ainsi que des moulins à vent par douzaines. Tout cela a sombré et gît à présent au large, sous le sable et les gravats, disséminé sur 2 à 3 000 mètres carrés, au fond de la mer. Les falaises ne cessant de se retirer, les églises paroissiales dédiées aux saints patrons, James, Leonard, Martin, Bartholomew, Michael, Patrick, Mary, John, Peter, Nicholas et Félix, ont glissé l'une après l'autre dans la mer et coulé peu à peu dans les profondeurs, en même temps que le sol rocheux sur lequel la ville avait été autrefois bâtie. De toutes les églises de Dunwich, il ne restait plus là-haut, au bord de l'éboulis, vers 1900, après que la Eccles Tower se fût également écroulée, que la ruine de l'église de All Saints. En 1919, elle a glissé en bas de la falaise, en même temps que les ossements de ceux qui avaient été enterrés dans le cimetière environnant, et seule la tour carrée, à l'extrémité ouest de la bâtisse, se dressa encore pendant un certain temps au-dessus de la région fantomatique.
Les émigrants.
Oui.
Il y a un moment où il va avec son oncle au bord de la mer.
Ah oui.
Tu te souviens? C'est dans l'histoire de Ambrose. Voilà. L'oncle Casimir s'arrêta pour contempler la mer. C'est le bord des ténèbres, dit-il. Et de fait, on eût cru que derrière nous, le continent avait sombré, et que plus rien d'autre n'émergeait du désert liquide que cette étroite bande de sable s'étirant du nord au sud. Tu peux le dire en anglais, toi, peut-être en anglais.
I often come out here. It makes me feel that I am a long way away, though I never quite know from where. Ah oui. Bon, oui, je peux m'imaginer que Max, il se faisait des pensées comme ça. Une fois demandé comment il se sent en Angleterre, il dit alors, je me sens bien ici, mais chaque fois quand je sors, je me rappelle tout de suite du fait que je suis étranger. Hein? Alors je peux m'imaginer qu'ils veulent dire alors qu'il n'est dans nulle part, il n'est pas à sa maison, disons. Il est nulle part à sa place.
La dernière fois que tu l'as vu, c'était quand? C'était ton dernière...
La dernière rencontre, c'était 5 jours avant sa mort. Alors, je crois, alors le jour où il est mort, c'était le dernier jour du trimestre, là. Et tout d'un coup, on a parlé d'un collègue qui est mort il y a 5-6 ans. Et je me rappelle très bien, on parlait alors de ce collègue, un ami alors de tous nous deux, et tout d'un coup, il a regardé en haut et a dit, « He's better off up there. » Alors ça veut dire il n'a plus de problème maintenant en haut, au ciel, disons, je ne sais pas. Je me rappelle très bien comme il a dit ça. He's better off out of it.
For, I have this,
this je cherche, j'ai plein d'archives, des choses sur Max, des choses qu'il a écrites, des notes que j'ai conservées.
This is interesting. Can I read a
ça, c'est intéressant.
This?
Je peux en lire un petit bout?
Because it ties in with what I was saying, I guess, about
parce que ça correspond, je crois, à ce que je disais à propos du temps, de la façon dont il essaie de l'éliminer dans son œuvre. L'axe moral de la littérature se trouve dans le problématique de la mémoire. Pour moi, il semble clair que ce sont ceux qui n'ont pas de mémoire qui ont le plus de chances de vivre heureux. Mais c'est une chose à laquelle on ne peut pas échapper. Notre construction psychologique est telle que nous avons tendance à regarder par-dessus notre épaule. La mémoire, même si nous la réprimons, reviendra et modélera notre vie. Sans souvenir, il n'y aurait pas d'écriture. Le poids et l'image spécifique de la phrase qui doivent atteindre le lecteur ne peuvent venir que des choses dont on se souvient, qui ne datent pas d'hier, mais d'il y a très longtemps. Tu connais cette photo?
Non.
Tu sais, quand je l'ai revu, après 5 ou 6 ans, j'étais frappée de voir à quel point il avait vieilli tout d'un coup. Il avait l'air vraiment âgé. Enfin là, on dirait quelqu'un qui approche des 70 ans, tu ne trouves pas? Il n'avait que 57 ans quand il est mort. Cette photo a été prise juste avant sa mort. Et il avait le visage très rouge, ce qui était peut-être un symptôme de la maladie de cœur qu'il avait, probablement. De temps en temps, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. On entrevoyait surtout à travers ses livres le fardeau qu'il portait partout avec lui, dans le sens où il s'inquiétait pour le monde entier. C'était comme une sorte d'atlas qui portait le monde entier sur ses épaules.
Et
en même temps, quand on se voyait, on riait. Il était vraiment joyeux. Il devait vraiment penser qu'il devait faire bonne figure. Il a dû vraiment prendre sur lui. Avec tout ce qu'il avait en tête, qu'il inquiétait vraiment beaucoup. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en novembre 2001. Je suis tombée sur lui dans le couloir alors que je venais juste d'arriver. Et il a dit « Oh, Ria, je ne savais pas que tu venais ». Et tout de suite, il m'a parlé du 11 septembre, qui bien sûr venait de se produire 2 mois avant. Il s'est mis à parler de ça. Il était complètement préoccupé, omnubilé par ça. Je n'arrête pas de penser à une chose. Quand il est mort, on était en novembre. Décembre.
Décembre.
Winterreise.
Ce truc de Winterreise. J'ai ce thème dans la tête parce que l'hiver va avec Max. Je ne sais pas pourquoi. Sans doute parce que je le voyais souvent en hiver.
Not a summer.
Ce n'était pas quelqu'un de très été. C'était plus quelqu'un de l'hiver. C'est une musique qui va vraiment avec lui. Je crois qu'il lui correspond vraiment. Ça a pris un an de déterminer la cause réelle de sa mort. Tout le monde espérait bien sûr que ce n'était pas juste un stupide accident. Alors on a tous été soulagés d'apprendre qu'il avait eu une crise cardiaque en conduisant. C'était quelqu'un de si esthétique et d'éthique. Alors mourir dans un horrible accident de la route, ça ne va pas. Ça ne concorde pas. Pas du tout.
Take you to the garden. Here's the old pump with the date 1770 on it.
Comme un labyrinthe.
Oui. This is an old French apple. It's wait a minute. That's one of the best apples, but you can't buy it anymore. You can't find that apple. And that is called Rennet Ananas. And it has the taste of pineapple. Right? Yes, yes. Now this is still a baby. And I grew it from seed, you see, but it will eventually grow into a big tree. But it's still a baby. I have to wait 12 years from the seed to the fruit. 12 years it takes.
So that's your royaume?
Yeah. yes, and that is that's a cherry. Cerise. Cerisier aussi. Et prune là. Oui.
Michael? Do you remember particular moments with Max?
With Max?
Yes.
I have a poor memory for such things. I remember his last visit because it was very, very sad. It was at least 1 year before he died. But when he said goodbye to us, my wife said to me, he's never going to come again. And he knew that he was going to die a year before, and he died by accident, in an accident, but he knew that he was going to die. And that was terrible. But that is what I remember. Also, I remember, oh yes, I remember another fairly trivial thing. Now, this is a peach tree, Pesci. It has a disease, and I never expected to find another fruit on it. But on one of his last visits, suddenly Max looked up and he said, there's a peach there. And ever since I have looked again, and every year we have one or two peaches on it. But that was Max who discovered it. He was very observant, very observant. Oh, it's cold.
Yes, very cold.
But I am very happy because you look really in good shape. Much more than last time.
No, I'm not in good shape.
Superficially, you look more in good shape than last time.
WG Max Zebald, une émission de Thomas Sipp, réalisé par Pierre Villers. Avec Gordon Turner, Ralph Yeuter, Ria Lohuizen, Ante Abel et la participation exceptionnelle de Michael Hamburger et Anne Beresford.
Le jour de l'enterrement, c'était étrange parce que la veille, il avait fait très froid, il avait neigé. Et cette route et toutes les routes étaient verglacées. Alors, j'ai appelé sa femme et j'ai dit, je ne sais pas si je vais pouvoir venir parce que les routes sont très dangereuses. Et elle a dit, oh non, non, il ne faut pas venir s'il y a du verglas. Et puis, dans la nuit, tout a fondu. Et même s'il faisait très froid, j'ai pu conduire facilement, sans aucun problème. Et nous étions à peine revenus à la maison que les routes ont gelé à nouveau. C'était vraiment très étrange. Et je sais que Max aurait trouvé ça très intéressant. Nous parlions souvent de ce genre de choses.
Traduction Sylviane Lamoine, voix Betty Rojas, Wolfgang Pisse.